De votre communication, conception, réalisation et diffusion de vos spots et micro-programmes, couverture médiatique de toutes vos activités, publi-reportage, communiqué, sponsoring d'émissions, direct en studio et hors studio, direct dédié. Sur notre site internet, sur nos pages Facebook et Twitter et sur notre application smartphone, Radio Omega vous propose des espaces pour vos insertions publicitaires, vos couvertures médiatiques web et un habillage complet du site. Mieux communiquer sur Radio Omega pour booster vos affaires.
Et tout de suite, les infos. Tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtoré.
Omega, bonjour. À la une de l'actualité, le Sahel burkinabé de plus en plus isolé. La route Kayadori est coupée à la circulation depuis hier. Le pont de Naré dans la commune de Tougouri qui relie les deux villes a été saboté, dynamité par des hommes armés. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le chef de l'État appelle les leaders religieux à jouer leur rôle, porter la vraie parole de Dieu et appeler clairement ceux qui se sont perdus à revenir sur le sentier de la lumière, appelé des Paul Henri d'Amiba. Conduite de la transition, un collectif d'OSC et de partis politiques sort le carton rouge pour Paul Henri d'Amiba pour le groupe de Renaissance. Le chef de l'État ne convainc pas 5 mois après sa prise de pouvoir. Et à l'international, le mandat de la MINUSMA a été renouvelé hier pour une année supplémentaire. Le Mali prévient cependant qu'il n'exécutera pas certaines dispositions de la résolution. Il s'agit notamment de la liberté de mouvement des enquêteurs de l'ONU sur les droits de l'homme. Et madame, monsieur, voici donc pour le sommaire de ce 6h15. Merci de nous suivre. Bonjour et bon réveil à l'écoute de Radio Omega. Terrorisme, extrémisme violent au Burkina, Paul Henri d'Amiba en parle avec les leaders des communautés religieuses. Au cours d'une rencontre hier au palais de Kossiam, le chef de l'État les a appelés à s'interroger sur le rôle qu'ils peuvent et doivent jouer dans ce contexte marqué par le terrorisme, porter la vraie parole de Dieu et appeler clairement ceux qui se sont perdus à revenir sur les sentiers de la lumière, a souhaité le président du FASO. Vous êtes les seuls à avoir l'influence morale, les gestes, les mots, les attitudes pour le faire, leur a-t-il dit. Paul Henri d'Amiba qui a poursuivi. Si des personnes ont réussi de façon fallacieuse à faire prendre les armes à nos concitoyens en invoquant Dieu, j'ai la ferme conviction que vous qui connaissez le vrai Dieu saurez trouver les mots pour leur faire comprendre que celui au nom de qui ils ont pris les armes n'est pas le Dieu d'amour que nous connaissons tous, que nous connaissons dans tous nos livres saints. Fin de citation. Pendant ce temps, le Sahel est de plus en plus isolé du reste du pays. Le pont de Naré dans la commune de Tougouri sur la route nationale numéro 3, Kayadori, a été saboté par des hommes armés. L'infrastructure de franchissement a été dynamitée hier matin, coupant ainsi la région du Sahel au reste du pays. Détail avec Yaya Diomandé.
Le pont de Naré dans la commune de Tougouri sur la route nationale numéro 3 qui relie Kaya à la ville de Dori a été saboté par des groupes armés terroristes selon plusieurs sources concordantes. À en croire ces sources, l'infrastructure de franchissement a été dynamitée au petit matin de ce 30 juin, coupant ainsi la région du Sahel au reste du pays. Plusieurs véhicules de transport en commun et de transport de marchandises en partance ou en venant de Dori sont stationnés de part et d'autre du pont endommagés, ont-elles précisé. Le sabotage des ponts est visiblement la nouvelle stratégie de guerre des individus armés non identifiés dans leur plan d'isolement de plusieurs localités de Burkina. En mi-juin, c'est la province du Soum qui était dans le viseur de ces terroristes. Ils avaient saboté plusieurs ponts sur l'axe Ouara, Djibo. Des localités comme Wousé, à quelques kilomètres de Kongoussi et Bourzanga, ont vu leurs ponts dynamités.
Une situation toujours critique et qui fait réagir plus d'un. Le groupe de Renaissance estime que le président Paul Henri Damiba n'est pas la personne idéale pour cette transition. Ce rassemblement de leaders d'OSC et de partis politiques a même donné un carton rouge au chef de l'État, malgré les récentes décisions annoncées par le Conseil national de défense, y compris la délimitation de zones d'intérêt militaire. Valérie Traoré, Djamila Topan.
Carton rouge pour le président Paul-Henri Damiba. Une situation sécuritaire toujours chaotique. Près de 2 millions de déplacés et une augmentation continue du prix des produits de première nécessité. Le groupe de Renaissance s'est dit déçu de la gestion du pays 5 mois après la prise du pouvoir par le MPSR. Mohamed Sodré, membre du groupe.
Le président Damiba n'a pas besoin qu'on lui demande de démissionner. Il a dit qu'il va se soucier de la veuve et de l'orphelin, du pauvre. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons sur le terrain? Par contre, c'est l'augmentation de leur salaire, les incomes. Tout ce que j'ai eu à citer, moi je pense que le président Damiba mérite un carton rouge.
Sur la décision de la hiérarchie militaire de créer des zones d'intérêt militaire, le groupe de Renaissance ne cache pas son inquiétude et s'interroge sur l'efficacité d'une stratégie. Chérif Koulibaly, membre du groupe de Renaissance.
Comme vous le savez, ce n'est pas écrit sur le front de Chaka, ni de Paul, ni de Zoumana, qu'il est terroriste. Demander aux populations de déguerpir cette zone-là, quelles sont les mesures d'accompagnement par rapport à cette opération-là? C'est toute la problématique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Même les terroristes vont déménager avec les populations, ça c'est clair. Parce que ce n'est pas écrit sur le front que je suis terroriste, je suis de tel temps dans ta mouvance. Donc, les gens vont déménager avec armes et bagages dans ces zones, par exemple, dites sécurisées. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va aller larguer des bombes sur des forêts, des savanes, etc. Et après, on va faire un bilan qu'on a neutralisé. Un terme qui est très vague, comme là-dedans, on a neutralisé 50-100 personnes, etc. Quelle est la finalité?
Il faut donc recadrer la transition pour débloquer la situation actuelle, à en croire les conférenciers qui estiment que cela doit se faire à travers leur concept, le RIF, nouveau inconditionnel du FASO. Ce concept du groupe de Renaissance prône un changement profond de la gouvernance politique au Burkina Faso.
De son côté, le mouvement M21 se montre plutôt optimiste. En conférence de presse hier, Marcel Tankouano et ses camarades ont encouragé les efforts consentis par la transition dans la lutte contre le terrorisme notamment. Ils se sont également prononcés sur la rencontre entre le président Damiba et les anciens chefs d'État, Jean-Baptiste Ouédraogo et Roch Kabore, le 21 juin dernier. Le point avec Laetitia Bayala et Bernabé Cabré.
Le mouvement du 21 avril a affiché son optimisme face à la stratégie de gouvernance proposée par le MPSR, notamment la mise en place du commandement des opérations du Théâtre National dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Cette organisation de la société civile atteste que la situation dégradante n'est pas uniquement une affaire du MPSR. Le peuple burkinabé doit rester uni et s'allier au pouvoir en place. Marcel Tankouano, président du mouvement M21.
Pour que le Burkina Faso ne disparaisse pas, il faut que nous-mêmes, en tant que fils et filles de nos pays, nous soyons unis derrière notre armée. Si nous ne sommes pas derrière notre armée, cela ne marchera pas. Parce que les canons, les fusils, les chars ne suffisent pas tant que le peuple n'est pas uni derrière tout ceci. Donc nous disons tout simplement, nous lançons un appel vibrant au peuple du Burkina Faso. Chacun de nous, tout Burkinabé, où qu'il se retrouve, que nous sommes en guerre, il faut qu'on développe les messages de guerre. Il faut qu'on accepte que nous sommes en guerre, qu'on n'accepte pas être fataliste.
Le mouvement a également donné son appréciation sur la rencontre initiée par le président Damiba, qui a échangé le 21 juin avec les anciens chefs d'État, Jean-Baptiste Ouédraogo et Roch Kabore. Une rencontre qu'il trouve salutaire et qui pourrait être le point de départ vers une réconciliation nationale.
Nous n'avons pas totalement le contenu, mais nous osons croire déjà que cette rencontre est bienvenue. C'est bienvenue parce que pour nous, ce qui va ressortir de la rencontre, on souhaite que ce soit dans le sens des aspirations de notre pays, de notre peuple. nous apprenons que c'est toujours pour aller dans la dynamique de la réconciliation que le président Damiba a certainement initié ce projet-là pour voir comment réunir tous les fils du Burkina Faso, ceux qui sont de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais c'est, j'ai dit, c'est la forme qu'il faut donner, qu'il faut mettre. Et comme on dit que la forme tient le fond à l'état. Donc pour nous, ce n'est pas mauvais. L'essentiel, si ça peut sortir notre pays de cette situation que nous vivons aujourd'hui.
Selon le M21, la réconciliation est un processus global et inclusif. Il ne saurait être effectif sans le retour au pays des exilés politiques tels que Blaise Compaoré, Yacouba Zida et bien d'autres.
Dans la suite de l'actualité, le Burkina et les Nations Unies se concertent sur leur passé, mais aussi leur futur, le futur de leur collaboration. Une réunion entre le pays et le système des Nations Unies a eu lieu à ce propos, justement hier jeudi après-midi à Ouagadougou, en présence de Albert Ouédraogo, Premier ministre burkinabé. Moumouni Yaro y était également compte rendu.
La rencontre a eu pour objet de faire le bilan des 62 ans de coopération, particulièrement celle de ces dernières années, et de s'accorder sur les priorités et les grandes orientations du système au Burkina, et d'autre part, tirer des perspectives en accord avec la vie sociopolitique actuelle, à savoir les crises sécuritaires, alimentaires et humanitaires qui secouent le pays, sans occulter la conduite de la transition politique burkinabé. Olivia Rwamba, ministre en charge de la coopération régionale.
Il était de bon ton que nous puissions nous rencontrer pour mieux baliser la coopération et dégager les axes prioritaires. Donc la présente rencontre nécessite qu'il puisse marquer une pause et voir avec objectivité la situation du Burkina Faso et l'accompagner comme il se doit.
La réunion va rendre plus efficace la coopération axée sur l'humanitaire, le développement, la sécurité et les droits humanitaires. Pour ce faire, les Nations Unies veulent adapter leur collaboration avec le Burkina. Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies.
La situation se modifie vraiment jour à jour. Et de plus en plus de besoins sont là. Et donc on veut être sûr que nous sommes dans la bonne voie et voir comment ensemble on peut voir ce que sont les priorités sur lesquelles il faut absolument se focaliser. Les besoins sont énormes, sont multiformes et c'est important qu'on adapte notre capacité d'opération à la réalité du monde.
Première du genre, Olivia Rwamba a souhaité que cette concertation se tienne chaque 3 mois. Une doléance approuvée par le système des Nations Unies au Burkina.
Et on parle développement local aussi. Installée le 17 juin dernier, la délégation spéciale de Dano ambitionne d'impulser davantage de progrès dans la commune. Le président de la délégation spéciale s'est dit entouré d'une administration compétente et des membres de délégation motivés. Et il appelle à la mobilisation et à la veille citoyenne. Radio Omega à Dano, Wabwe Bakouan.
Du service de l'état civil à la gestion financière en passant par les ressources humaines, tous les agents sont à leur poste et offrent les services de base aux usagers. Nous sommes à la mairie de Dano. Pour le président de la délégation spéciale Samandé Léonard Gougou, il est entouré d'une administration compétente et des membres de délégation spéciale dévoués.
Je suis convaincu, je suis persuadé que l'équipe est vraiment liée pour conduire à bon port Dano. Et ce que je demande, c'est le don de soi.
Cette délégation spéciale installée le 17 mai 2022 avait 20 membres affiche déjà ses ambitions d'impulser le développement local.
Ce qui nous a conduit à élaborer un projet de feuille de route que nous entendons soumettre donc au bureau parce qu'il nous a été donné de remarquer que le conseil municipal passé n'avait pas donc de règlement intérieur. Alors pour ne pas naviguer à vue, nous entendons incessamment convoquer donc les autres membres de la délégation pour procéder donc à l'examen et à l'adoption de ce règlement intérieur.
Une semaine à peine son installation, le président de la délégation spéciale délègue son premier vice-président qui célèbre dans la foulée 2 mariages. Le premier vice-président Aristide Dabiré.
Je l'ai accueilli avec beaucoup de joie parce que déjà, moi, je dirais que c'est une confiance placée à ma modeste personne. À peine être installé, On me délègue de célébrer un mariage, c'est une confiance. Et je pense que je l'ai exécuté avec beaucoup de sérénité.
Samandé Léonard Gogo.
Je pense que c'est déjà une gouvernance participative et inclusive. Pour moi, le plus important, c'était de rappeler aux uns et aux autres qu'en matière de temps, nous n'en avons pas. Il faut que chacun assume ses attributions.
De façon collégiale, la délégation spéciale de Dano déroule sa feuille de route et prône une gestion participative. D'où l'appel du président de la délégation spéciale à l'ensemble des membres de la délégation spéciale et à la population de Dano à la mobilisation, mais aussi surtout à la veille citoyenne. Dano Wabwebakouan, Radio Omega.
En attendant de voir les délégations spéciales à l'œuvre, l'administration publique souffre encore de sa lenteur dans le traitement des dossiers et de la faible déconcentration de certains services. Pour répondre à cette préoccupation, une stratégie nationale de modernisation de l'administration sera adoptée. Elle couvre la période 2021-2025 et sa mise en œuvre est assurée par le Conseil national de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Hier jeudi, s'est tenue la session de l'année 2022 à Ouagadougou en vue de rendre compte des actions menées au cours de l'année 2021. Abdoulaziz Zoulabou nous en parle.
La modernisation de l'administration et la bonne gouvernance prend en compte la liberté de la presse, le respect des droits humains, l'accès à la justice, l'amélioration de la qualité du service public et bien d'autres domaines. En ce qui concerne l'année 2021, des avancées significatives sont à relever. Étienne Kabouré est le secrétaire général de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance.
En matière de modernisation, nous avons développé un certain nombre d'outils modernes de gestion de notre administration publique. C'est la description des fiches de poste de travail, par exemple. C'est l'évaluation de la charge de travail qui va permettre à chaque poste de travail de définir le nombre de personnes qu'il faut. C'est également les manuels de procédure qui vont permettre à l'ensemble des agents publics de pouvoir délivrer des services de qualité. En matière de bonne gouvernance, nous sommes en train de travailler à généraliser l'adoption des codes d'éthique et de déontologie au niveau de l'ensemble des ministères de notre administration publique.
Les acteurs réunis à cette session ont la charge d'apprécier les outils contenus dans le projet de rapport annuel de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique de l'année 2021. Autre étape importante, il va s'agir de la mise en œuvre de ces différents outils. Étienne Kabouré.
Au-delà des outils que nous avons développés, il faut maintenant travailler à leur implémentation. Donc nous devons travailler à implémenter les différents outils qui ont été développés pour permettre de constater les progrès au niveau de notre administration publique et d'accélérer le processus de modernisation.
Le Premier ministre Albert Ouédraogo, qui a présidé cette session, a profité de l'occasion pour rappeler la place qu'occupe la bonne gouvernance dans la feuille de route de la transition.
Tout autre chose à présent, une centaine de médecins sont à l'école de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Ils assistent à une session de formation qui a pour objectif de les outiller sur la production des actes médicaux conformément à la loi en cas de risque professionnel. Prise en charge des risques professionnels, c'est autour de ce thème que se déroule cette session. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier jeudi à Ouagadougou en présence de Valérie Guéret.
Ce sont des médecins issus de plusieurs structures sanitaires dans diverses spécialisations qui sont formés par la CARFO sur les dispositions de la loi régissant la prise en charge des accidents de travail et maladies professionnelles. Pour le chef de service des risques professionnels de la CARFO, il s'agit d'échanger avec les praticiens de la santé sur l'élaboration des documents médicaux à fournir dans la prise en charge des risques professionnels. François Dassiz Ouattara.
La réparation des risques professionnels est un pan de la prise en charge des accidents de travail, des maladies professionnelles, donc un pan du régime de prévention et de réparation des risques professionnels que la CARFO met en œuvre. Pour prendre en charge les risques professionnels, la CARFO a besoin d'informations et ces informations sont fournies par ceux qui soignent les patients. Alors, nous avons besoin de communiquer avec ces praticiens pour leur dire quelles sont nos attentes vis-à-vis de ces informations.
Environ 90% des certificats médicaux de consolidation sont établis sans évaluation de l'incapacité permanente chez les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Et des difficultés existent quant à l'élaboration des certificats médicaux initiaux et rapports médicaux. À cet effet, plusieurs communications sont prévues dans le but de mieux outiller les médecins sur le contenu de ces documents. François d'Assise Ouattara.
Alors, nous avons une équipe de formateurs aguerris. Ils vont donc communiquer sur les documents médicaux légaux. Donc, c'est le contenu de ces documents-là qui intéresse la CARFOR. Il s'agit des certificats médicaux initiaux additifs lorsque cela est nécessaire. Il s'agit des rapports médicaux. Il s'agit également des expertises médicales.
Tous ces documents sont indispensables dans la prise en charge des risques professionnels prévus par la loi. Et depuis 2018, cette prise en charge est effective au niveau de la CARFOR au profit des agents publics de l'État.
Et l'heure de la vérité a sonné. Pour les élèves en fin de cycle de l'enseignement secondaire, les résultats officiels du premier tour du baccalauréat ont été proclamés hier. Des cris, des pleurs, de joie ou de tristesse, c'est selon. Les candidats ont exprimé en tout cas leurs émotions. Moumouni Tamboura et Gisèle Tirogo étaient au lycée Marien Gouabi pour être témoins des temps forts. Leur reportage.
Tic-tac, l'heure a sonné. Nous sommes au Marien Gouabi. Les premiers résultats du baccalauréat tombent. Sous les arbres, partout dans la cour du lycée Marien Gouabi, les candidats attendent avec impatience leur sort. Les émotions se lisent sur les visages. La peur d'échouer, mais aussi l'espoir d'empocher le diplôme. L'adrénaline monte, le cœur bat plus que la normale. Trois cas se présentent pour ces candidats. L'admission, l'admissibilité au second tour et le courage de reprendre l'année scolaire. Et pour ces moments de stress, certains se sont fait accompagner par de leurs parents ou des amis. Candidat approché, demande le jury. Une phrase qui semble difficile à comprendre. Certains reculent, mais comme on le dit, le verre est tiré, il faut le boire. Des admis sont déjà notés. Certains ont les mots. D'autres expriment autrement leur joie.
Oh, enfin, je savais que tu as là, c'est bon. Ah bah. Merci, mon enfin. On va voir ton nom. Ah. Ah.
Vraiment, je tiens à remercier Dieu. Vraiment. C'est lui qui m'a donné le courage et puis.
Et pour ces moments de vérité, la joie et la tristesse se côtoient, contrairement à ces candidats qui jubilent. D'autres sont inconsolables. Leur nom ne figure pas sur la liste des admis. Une réalité difficile à accepter pour certains, même après plusieurs vérifications.
Personnellement, bon, moi je vais rejeter la balle sur les candidats. Je trouve que cela peut peut-être s'expliquer par le fait que beaucoup de candidats ne sont pas suffisamment préparés et ils viennent pour composer.
Ce sont au total 1147 candidats qui étaient en lice pour la conquête du baccalauréat dans ce centre. Ce centre de composition a enregistré 275 admis, soit un pourcentage de 25,94% pour le premier tour, avec 474 ajournés et 87 absents, selon le superviseur Mahamadou Salambéré. La composition des sujets du second tour est prévue pour le 4 juillet prochain et les résultats attendus au plus tard le 8 juillet. L'occasion faisant le larron, ce fut un moment pour certaines universités privées de la place de faire la cour au nouveau bachelier.
Omega, l'actualité internationale à présent. Le mandat de la MINUSMA a été renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ce 30 juin pour une durée d'un an. Mais le pays se dit insatisfait de la version finale de la résolution qui ne prend pas en compte certaines réserves émises par sa délégation. Le Mali exprime son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme et estime que ses réserves fortes ont été ignorées. Le Mali n'entend pas exécuter ses décisions, prévient son représentant. Auparavant, le Mali a obtenu l'abandon de vols français en appui à la MINUSMA et la non-stigmatisation directe des paramilitaires russes de Wagner présents dans le pays. Au Soudan, au moins 6 manifestants ont été tués hier à Khartoum, la capitale, lors de nouvelles manifestations contre la junte au pouvoir depuis 8 mois. Des dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues des plus grandes villes du pays. À Khartoum, les manifestants ont tenté de se diriger vers le palais présidentiel. Ils ont pu franchir les ponts qui mènent au centre-ville, mais la violence de la répression a fait plusieurs victimes parmi les manifestants, 6 selon des médecins pro-manifestants. Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Fidèle Compaoré. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.